Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail.
Merci patron.
Avec Philippe Saunier.
Bonjour. Dans cette chronique des temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail, je vais revenir sur le 21 septembre. Le 21 septembre 2001, c'était l'explosion de l'usine AZF à Toulouse, l'usine donc filiale de Total. Une explosion qui a eu lieu dans le hangar où étaient stockés les rebuts de la production d'engrais et où il y a eu le mélange fatal. Alors je rappelle donc que cette explosion, eh bien c'est la plus grosse catastrophe, c'est le mot qui avait été utilisé à l'époque, d'après-guerre, hein, puisqu'on a compté 31 morts, on a compté 22 000 blessés, c'est quand même énorme, et des dégâts matériels également énormes, hein, plusieurs dizaines de milliers de logements touchés. Pour ne citer qu'un seul chiffre encore, 59 écoles primaires de touchées. Donc vous voyez un petit peu l'étendue du désastre de ce côté-là. Et donc si j'en parle, c'est parce que nous sommes à quelques jours effectivement du 21 septembre, c'est la première raison. La deuxième raison, et je vais y venir, c'est que les enseignements n'ont pas été tirés. Alors il y a eu une bagarre gigantesque qui a encore lieu aujourd'hui de la stratégie de Total, la maison mère, de faire tout pour que finalement cet accident ne lui soit pas attribué. C'était soit un mystère, on savait pas, voire même un attentat. Alors ils ont joué là-dessus avec facilité sur l'attentat, tout simplement parce qu'on était 10 jours après l'attentat des tours jumelles à New York. Alors ils ont surfé sur la vague, ils ont lancé, on peut dire, au moins une dizaine de pistes pour que finalement, dans l'opinion publique, et ça a relativement marché, puisque si vous interrogez les Toulousains aujourd'hui, il y en a une bonne partie qui vous disent on ne saura jamais ce qui s'est passé, et aussi une bataille dans la durée avec moult moyens, des complicités, le journal Valeurs Actuelles par exemple, Figaro et quelques autres, le journal Le Point, qui les ont bien aidés en la matière. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, des produits qui n'auraient jamais dû être mélangés, qui étaient produits dans la même usine, l'ont été, et ils l'ont été tout simplement parce que Total a décidé de sous-traiter à la fois le ramassage des rebuts, à la fois le stockage des rebuts, le secouage des sacs qui n'étaient plus utilisés, et tout ça, ça a en quelque sorte conduit à une chaîne de désorganisation où des produits qui n'auraient jamais dû se retrouver au même endroit l'ont été. Voilà pour l'explication rapide. Il faut savoir aussi que même si encore aujourd'hui un certain nombre de partisans finalement de Total disent qu'on ne sait pas ce qui s'est passé dans les 48 heures, par contre, après l'explosion du 21 septembre, Total avait tout compris. Ils avaient d'autant plus tout compris qu'ils ont payé un chercheur de spécialiste en détonique pour travailler sur la question de la façon la plus discrète. Ça a été révélé après, lors d'une descente de police, des essais avaient été faits. C'était encore en 2001, donc juste quelques mois après l'explosion, qui démontrait parfaitement que ce type de mélange, sans même avoir besoin d'amorçage, de source de chaleur ou autre, finalement explosait pratiquement à tous les coups. C'était juste une question de proportion. Alors cette bataille juridique a été énorme, puisque en fin de compte, il y a eu un premier jugement, un deuxième jugement en appel, une cour de cassation qui a cassé un retour en jugement en appel et une deuxième cour de cassation qui nous amènera à une décision finale en 2017. Donc des procès colossaux puisque chacun d'entre eux va durer 4 mois d'audience avec moult finalement de force en présence, mais du côté de Total, hein, c'est le pot de fer contre le pot de terre. Alors la suite, il y a eu quand même jusqu'en 2009, finalement, un ralentissement dans la casse en termes de statut, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, le cœur du sujet, c'était la sous-traitance. Il y a eu quelques dispositions réglementaires de prise qui allaient dans le bon sens. Et puis, à partir de 2009, c'est le contraire. Et c'est bien pour ça que je vous en parle, puisque Sarkozy, à l'époque, a supprimé un certain nombre de demandes d'autorisation préalables pour le fonctionnement des installations classées. Donc, on a sorti, finalement, des types d'activités où, jusque-là, il y avait besoin de faire un dossier et de demander finalement à l'administration, en fonction de la qualité du dossier évidemment, si on pouvait ou pas créer des installations classées. Donc ce qui s'est passé, et on va voir que ça a continué, ça conduisait tout simplement à ne plus réaliser d'études de danger et ne pas aussi mener d'enquête d'utilité publique, ainsi que d'autres aspects. Et alors, un gros avantage pour l'administration, puisqu'il n'y a plus de demande d'autorisation, finalement, elle n'est pas mouillée. Elle n'est pas mouillée dans le résultat, puisqu'on ne lui demande plus son avis. Donc, jusqu'en 2009, il y a eu aussi un ralentissement, finalement, des activités passées à la sous-traitance, et puis c'est reparti de plus belle jusqu'à aujourd'hui. Et quand je parle de sous-traitance, c'est en même temps l'utilisation d'emplois précaires, l'utilisation de travailleurs déplacés, ce qui fait qu'aujourd'hui, sur des sites classés Céveso 2, on a parfois plus de salariés entre guillemets extérieurs, enfin des travailleurs sans statut, que de salariés finalement de l'entreprise elle-même. En 2014, on est sous Hollande. Lui, il nous sort la simplification réglementaire. Et donc, il y a également toute une série de dispositions du Code du travail qui vont tout simplement disparaître, comme par exemple la notice d'hygiène et de sécurité qui était exigée pour les installations classées. C'était le seul document qui mettait en relation les effectifs, la formation des personnels et un certain nombre de dispositions de cet ordre, ça n'existe plus. Depuis 2017, sous Hollande, arrivent ensuite les ordonnances Macron qui vont supprimer le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, y compris, alors dans toutes les professions, mais y compris dans les établissements concernés par les risques majeurs. Donc c'est énorme, mais ça c'est fait depuis quelques années maintenant. Alors j'en viens et je fais la liaison volontairement à l'incendie de Lubrizol en 2019, puisque le préfet avait donné son feu vert à une augmentation des capacités sans évaluation environnementale. Et s'il a pu le faire, c'est-à-dire tout seul dans son bureau, de décider qu'on pouvait augmenter ces augmentations de capacités, c'est tout simplement du fait des modifications que je viens de citer. Autrement dit, si les textes étaient restés comme ils l'étaient jusqu'en 2009, l'incendie de Lubrizol n'aurait probablement pas pu avoir lieu. Donc, cet établissement a décidé de ces, entre guillemets, assouplissements, puisqu'il a suffi à l'exploitant de présenter au préfet deux demandes successives un petit peu avant l'incendie, c'était dans le premier semestre 2019, pour avoir une autorisation sans qu'il soit finalement réalisé d'études de danger, comme je l'expliquais tout à l'heure, d'enquête d'utilité publique, etc. Voilà. Alors donc le 23 septembre 2019, maintenant on arrive finalement 3 jours avant l'incendie de Lubrizol. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un nouveau rapport commandité par le Premier ministre qui vise encore et toujours à simplifier, à éliminer dans un sens, puisque finalement c'est écrit dans le rapport, favoriser le monde des affaires. Donc on est 3 jours avant l'incendie de Lubrizol, avec des propositions, une dizaine de propositions. Je vais vous en citer simplement 2. Eh bien, amplifier encore les pouvoirs du préfet en termes de dérogation et pouvoir autoriser le démarrage des travaux avant la fin de la procédure d'examen et de l'éventuelle autorisation des services de l'État. Donc, le préfet peut signer, on peut commencer les travaux, même si l'administration n'a pas encore donné son feu vert. Et puis, un autre qui vaut son pesant de cacahuètes, donner au préfet la priorité à la reconquête industrielle. Alors, c'est joli comme ça, mais quand on réfléchit, la priorité par rapport à quoi ? Est-ce que c'est par rapport à la sécurité ? Est-ce que c'est par rapport à l'environnement ? Moi, en tout cas, c'est ce que je comprends. Alors, l'incendie de Lubrizol, donc de... a lieu en 2019 et après ça continue. Pendant que le Sénat va auditionner gentiment un certain nombre de personnes sur l'incendie de Lubrizol, eh bien sort la loi ASAP sur la simplification qui va encore retirer des pans qui étaient positifs dans le code de l'environnement, en particulier sur le droit de consultation des citoyens. En conclusion, compte tenu de ce que je viens de dire, des différents critères, le statut des salariés dans l'entreprise, le dumping social, les effectifs, les moyens de secours, la représentation du personnel, le droit de consultation des citoyens, leur expression, la réalité des contrôles, le niveau des sanctions qui est complètement marginal aujourd'hui quand elles ont lieu, en plus ces sanctions, les obligations théoriques qui régressent, les consignes qui sont données au préfet, eh bien, on peut affirmer aujourd'hui que cette situation est pire qu'avant l'explosion de l'usine Total AZF. C'est là où je voulais en venir. Nous sommes aujourd'hui moins protégés qu'en 2001, faut quand même le faire, et donc la survenue d'une nouvelle accident majeur dans ces conditions n'est pas une hypothèse, c'est une certitude. La seule chose que l'on ne sait pas, c'est quand il aura lieu. C'est particulièrement grave ce que je suis en train de dire, mais c'est tout à fait la réalité. Je suis d'ailleurs pas le seul à le dire dans ce domaine. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette chronique. J'en profite que j'ai le micro pour vous dire que le jeudi 22 septembre à 17h30 au café associatif Le Boui-Boui du Pays, qui se situe le long de l'Aveyron entre Lexos et Fenroll, il y a une conférence débat avec Anité Beaumoni, une scientifique qui est connue, sur le thème de l'asservissement de la science par les multinationales, comment ils font finalement pour avoir les résultats qu'ils souhaitent et empêcher les études qui nous seraient fort utiles. Donc vous y êtes tous les bienvenus ce jeudi 22 septembre à 17h30, pardon. Et je vous dis à bientôt.
Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail de Philippe Saunier, à retrouver en podcast sur cfmradio.fr, rubrique CFM Keylus.
Le public de jardin de ma tante.
Oh, c'est pas vrai.
Ah, bah si. Et mon patron, il change de costume 2 fois par jour. Oh.